Laurence Dorlac est journaliste, chroniqueuse beauté dans Télématin sur France 2, jeune diplômée du CAP Broderie d'Art et créatrice du magazine en ligne Au fil des mots à découvrir sur Instagram. Elle a coécrit avec Joël Conrad « Passez votre CAP Broderie, art de la broderie à la main, épreuves pratiques et théoriques ». Bonjour Laurence Dorlac.
Bonjour Martin.
Alors les néophytes dont je fais partie confondent facilement broderie, couture, tapisserie, crochet. Alors quelle est la particularité de la broderie et plus spécifiquement de la broderie à la main ?
Le fait d'utiliser un fil, une aiguille pour broder, broder, orner le tissu avec ce fil qui va venir se poser sur un tissu qui, lui, est tissé déjà. La tapisserie, le dessin, lui, il est inclus dans chaîne et trame, dans les fils qui vont constituer le tissu. Voilà la grande différence qui est tout à fait portée par une erreur d'appellation, c'est la tapisserie de la reine Mathilde, autrement connue sous le nom de la tapisserie de Bayeux, qui en fait est une broderie.
On pense souvent au point de croix, mais il y a bien plus que ça en réalité.
Ah, il y a énormément de points pour pouvoir broder à l'aiguille. Le point de croix est souvent le point d'entrée par lequel on arrive à tout ce monde assez extraordinaire.
Il y a aussi l'usage de paillettes avec un crochet spécial, le crochet de Lunéville. Ça aussi, c'est de la broderie.
C'est de la broderie. C'est le fait d'orner ce fameux tissu avec le mot large, ce sont des fournitures. Donc, ça peut être des perles, ça peut être des tubes. Des tubes, c'est le même matériau de verre, quand il s'agit de verre pour les perles, mais qui forme des tout petits tubes creux dans lesquels on peut passer un fil. Et puis après, il y a plein d'autres choses qu'on peut broder. On peut broder des coquillages aussi sur du tissu. Il y a des brodeuses contemporaines qui font ça, c'est absolument formidable. On a historiquement utilisé les litres des scarabées, alors même que les paillettes n'étaient pas complètement encore très répandues pour créer des brillances vertes absolument fabuleuses sur les robes. Et alors, pour faire tenir ça, vers la fin du 19e siècle en France, un homme, c'est à peu près à l'époque qu'on a inventé la machine à coudre, c'est pas loin de Mulhouse, à Lunéville, ce fameux crochet de Lunéville. C'est une sorte de tout petit hameçon qui est monté sur un manche en bois et qui va permettre de faire effraction, d'entrer dans le tissu, mais sans faire un trou, et d'y arrimer en quelque sorte en faisant une boucle avec le fil. Il y a un tour de main à prendre. C'est en l'occurrence l'un des points importants de ce CAP art de la broderie, apprendre à maîtriser ce crochet de Lunéville tout en sachant aussi maîtriser la broderie avec le fil et l'aiguille. Okay ? Et bien voilà, ce petit crochet-là, il va permettre de faire tenir ses fournitures, ses perles, ses sequins, ses paillettes et je dis pourquoi pas ses coquillages sur le tissu.
Parce que donc il y a un CAP sur le domaine et c'est ce que propose de préparer ce livre.
Un certificat d'aptitude professionnelle, bien sûr, qui existe dans le pays de grands brodeurs, dans un pays qui a beaucoup, évidemment, marqué le monde par son élégance et sa mode. Le dernier grand brodeur très connu, bien sûr, c'est François Lesage. La maison Lesage existe toujours. Et donc, on a en France, bien sûr, encore, dans des lycées professionnels, formation aux arts de la broderie. Alors, il y a deux options. Il y a une option art de la broderie à la main, c'est ce que j'ai passé. Et puis, il y a une autre option à laquelle je réfléchis, c'est à la broderie à la machine, avec une machine qui s'appelle la machine Corneli, qui a aussi été inventée, on va dire, vers la fin du 19e siècle, qui permet de faire, avec un jeu d'utilisation des deux mains ensemble, pas tout à fait comme une machine à coudre avec une pédale. Voilà, c'est une machine assez... Allez voir sur les internets. Machine Corneli, C-O-R-N-E-L-Y. Ça permet de faire des tas de boucles. Et quand vous achetez sur les marchés des écharpes avec des volutes qui sont extrêmement bien faites, sur des lainages, on voit des boucles un petit peu lâches d'un côté et puis on voit un dessin de chaînette de l'autre. Souvent, ça a été fait à la machine Corneli. Puis ça permet de faire aussi pas mal de dentelles, des guipures beaucoup plus rapidement. C'est surtout ça qui a fait le succès de la machine Corneli. Mais les arts de la main continuent encore d'être très importants.
Mais toi, tu ne l'as pas passé en étant dans un lycée professionnel comme c'est normalement prévu. Tu t'es dit, après de longues années en tant que journaliste, que finalement, tu avais envie de passer un CAP broderie. Pourquoi ?
Charmeur, Martin, parce que je n'ai plus trop l'âge de passer le certificat d'aptitude qui se passe quand même vers l'âge de 15 ans. Alors, moi, en fait, je brode depuis une trentaine d'années. Je suis toujours journaliste. Je fais toujours mon métier par ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a rarement eu de départ en tournage maintenant ou en reportage pour la radio dans d'autres vies où je ne partais pas avec mon sac de broderie. Et j'ai commencé sur des ferries. On connaît bien ça ici à Lisle-Dieu. Et il y a 30 ans, quand je suis arrivée à Lisle-Dieu, j'avais dans mon sac de la broderie. C'est très pratique d'attendre un bateau. À Lisle-Dieu, ils sont toujours à l'heure, donc c'est formidable. Mais clin d'œil, n'est-ce pas ? Mais en Irlande, mais en Grèce, mais ailleurs dans le monde, on avait beaucoup envie de découvrir des tas d'îles avec celui qui est devenu mon mari. Ben, j'avais toujours une broderie. J'ai commencé avec le point de croix pendant longtemps. Et puis petit à petit, j'ai ouvert mes chakras en voyant les broderies d'ailleurs ailleurs, au Guatemala, en échangeant ma propre broderie parfois avec des femmes à l'étranger. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas que le point de croix. Je suis complètement autodidacte. Et ensuite, j'ai continué avec la broderie traditionnelle. Et j'ai continué avec le point de Bayeux, issu et fait pour la fameuse tapisserie de Bayeux, où il y a possibilité voilà, de faire un extrait de la tapisserie de Bayeux complètement dans la règle de l'art. Ça m'a pris quand même 2 ans et demi pour bien maîtriser le point et de faire cet extrait, parce que je ne brodais pas complètement tous les jours. Et puis, petit à petit, l'idée du CAP est venue sur une plage à Lisle-Dieu.
La broderie, ça peut se faire de manière très légère. Il y a beaucoup de matériel qui est présenté au début du livre, mais il n'est pas du tout nécessaire d'avoir beaucoup de matériel pour se lancer.
Le rêve peut commencer avec un fil et une aiguille. Avec un fil et une aiguille qu'on peut trouver à la mercerie, à la cotonnerie. Franchement, se laisser guider par une petite échevette portée par les couleurs de ce coton mouliné qu'on doit à Dolphus, Mieg et compagnie, c'est-à-dire DMC, qui est la marque un petit peu hégémonique. Mais après, il y a plein d'autres marques à tous les prix. C'est franchement de l'ordre de quelques sous, hein, une aiguille et un fil. Après, si on veut gérer la tension de son fil sur le tissu, parce que c'est ça l'affaire de la broderie, c'est quand on va poser ses fils sur le tissu, si on est très stressé, ça va être très 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 tendu, resserré, ça risque de froncer le tissu. Si on est trop trop lâche, pas assez attentif, ça va gondoler par-dessus le tissu. Donc, il faut trouver un petit peu un entre-deux. Eh bien là, pour 5, 6 euros, 10 euros maximum, on peut se procurer un cerceau, c'est-à-dire un tambour de broderie. C'est un cerceau de bois plein qui vient s'enficher dans un autre cerceau de bois qui lui est fendu. Et au niveau de la fente, il y a une petite molette, une petite vis qui va permettre de resserrer ce cerceau sur son copain qui est plein. Et entre les deux, on aura posé le tissu. Ça va tendre comme un tambour, comme la peau d'un tambour. Ça va tendre notre tissu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, à partir du moment où on a un tambour, de pouvoir gérer ses gestes, la tension, etc. Et donc, moi, je pars à la plage avec mon tambour, mes fils. Et pour tenir le tambour, alors j'ai même sophistiqué depuis. Alors là, ça coûte à peu près 20 euros. C'est un espèce de pied plat qui se met sous ma cuisse. Et puis, un petit montage de bois avec une petite mâchoire à vis de bois qui va tenir le tambour. Ça fait que j'aurai les deux mains libres.
Et comment en es-tu venu à l'idée de faire un livre pour apprendre la broderie et plus précisément préparer ce CAP ?
Quand je me retrouve avec 120 personnes dans un lycée professionnel, dont une bonne cinquantaine de plus de 50 ans qui passent le CAP, on manifeste toutes, beaucoup de femmes, mais quelques hommes aussi. Je rappelle qu'ailleurs dans le monde, ce sont les hommes qui brodent à peu près, de l'ordre, je crois, presque de 7 sur 10. On manifeste toute notre surprise de se dire qu'il n'y a pas de bouquin pour préparer le CAP. Il y a des livres de préparation au CAP pour tout ce qui est prévention santé, parce que ça fait partie des épreuves du CAP, comment se tenir. À partir du moment où on est en atelier, avoir un équipement, et c'est valable pour la broderie, des chaussures fermées, si les aiguilles vous tombent sur les pieds, etc. Machin. Mais pour ce qui est des arts de la broderie, il n'y avait pas le détail. Et je me dis, si j'ai ce CAP, je le ferai. Je me débrouille pour rencontrer les éditions Erol, qui me disent top là, et avec des éditrices extraordinaires, qui de bienveillance, d'intérêt, qui sortent du passé votre CAP couture, et qui me disent, ça tombe bien, parce que finalement, on va peut-être en faire une petite collection. Pour info, il y a aussi un CAP, passez votre CAP, je crois, céramique, pourquoi pas vannerie. On se retrouve là avec Joëlle, qui était ma professeure de broderie, celle vers laquelle je me suis tournée. J'ai cherché une école pour pouvoir m'entraîner petit à petit, non seulement à connaître tous les points à l'aiguille que demande le CAP, mais aussi ces fameux points à maîtriser avec le crochet de Lunéville. Il y a 64 points à connaître parfaitement pour le certificat d'aptitude professionnelle. Et Joëlle embarque dans l'idée de m'accompagner pour faire les photos, les projets, et même un CAP blanc, c'est-à-dire que ça, c'est assez unique au monde, première mondiale. Il y a à la fin du livre toutes les directives et les indications pour pouvoir réaliser une épreuve comme au CAP, où on va broder pendant 3 jours au lycée professionnel. On pose son métier le premier jour et on revient tous les matins de 8h à 18h pour venir broder. Et c'est une expérience extraordinaire de vie et à vivre, et de communauté qui est extraordinaire.
Et si on n'y connaît absolument rien en couture, est-ce que ce livre est quand même abordable ?
Je ne sais pas coudre un bouton. C'est ballot. Hein. J'ai jamais été foutue de faire des ourlets. C'est ma maman qui rigole. Tout est fait avec des bandes autocollantes. Ben non, je suis nulle en couture. Je comprends rien, c'est géométrique et tout. Mais j'adore broder.
Également, parmi les épreuves que tu mentionnais, il y a une épreuve d'histoire de l'art.
Ouais.
Parce qu'en fait, la broderie, c'est extrêmement ancien.
D'abord, c'est extrêmement ancien, puis on va quand même pointer le fait que, voilà, posséder un CAP, c'est être un futur artisan, ouvrier, arrivé en atelier, mais avec un savoir-faire, l'usage de sa main, bien sûr, mais aussi connaître un petit peu ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir mieux encore créer, innover et faire preuve ensuite de nouveautés. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, si on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, c'est un petit peu dommage. Donc oui, dans les épreuves du CAP, il y a une épreuve d'histoire de la broderie. Donc, j'ai aussi passé un petit degré, pris des cours d'histoire de la broderie par ailleurs, en rencontrant des brodeuses vraiment, vraiment formidables qui prennent le temps comme ça. Et ce livre est émaillé hein, de mes rencontres professionnelles, ceux qui fabriquent les paillettes, ceux qui fabriquent des crochets de Lunéville, ces brodeuses qui donnent des cours d'histoire de l'art. Et on se rend compte que mais ça remonte aux Égyptiens, à l'Antiquité. On a toujours trouvé des petites tuniques où dès qu'il y a un petit point de croix, un petit dessin, et même plus que ça, avec du fil d'argent, du fil d'or. Il y avait cette œuvre de brodeur, d'ornée peut-être. Et puis, ça fait tout le Moyen-Âge. Il me disait, une professeure, vous êtes dans une église où il n'y avait pas évidemment l'électricité, il n'y a que les bougies. Vous imaginez quelqu'un qui se tourne vers vous avec une cape entièrement brodée. C'est un pouvoir absolument extraordinaire sur les foules. Donc, la broderie, et d'abord au travers de la broderie religieuse, il y a eu une exposition fabuleuse à Cluny il y a quelques années, a été extrêmement importante dans l'histoire. Et puis ensuite, il faut s'en référer au livre, les rois ont eu d'abord presque des brodeurs avant d'avoir des peintres attitrés. Donc oui, ça remonte à il y a très très longtemps, et c'est ce que ce chapitre essaye de synthétiser, parce que je n'oublie pas que c'est un ouvrage qui officiellement s'adresse aux gens qui veulent présenter l'épreuve du CAP, mais il y a quand même une très bonne synthèse historique. Puis j'ai essayé moi de faire un parallèle entre l'architecture, la mode et la broderie, parce que je voulais replacer ça dans ce qui se passait, parce qu'il y a des mouvements, les mouvements se correspondent. Et c'est ça qui est assez rigolo, cette broderie qui devient un peu géométrique avec des tubes, des perles, des paillettes dans les années 20-30, eh bien voilà, elle n'est pas sans rapport avec ce qui est en train de se passer architecturalement aussi à l'époque.
Il y a cette profondeur historique, mais il y a aussi une profondeur qu'on pourrait dire géographique, puisque ça se pratique partout dans le monde. Et donc, tu as déjà mentionné tes voyages et ton rapport avec la broderie. Et donc, il me semble que tu prépares un ouvrage sur ce thème.
Oui, j'essaye de mettre les idées en place de ces rencontres avec ces petits pas menus que j'entends derrière moi, dans une maison d'hôte en Chine. Et puis, en fait, c'est la lavandière et puis la cuisinière qui ne parle pas un mot d'anglais, qui d'habitude ne sont pas forcément vouées à venir rencontrer la touriste que je suis. Mais moi, je suis en train de broder parce que j'ai donc depuis un époux qui a toujours cette patience de me dire « Bon, bah, t'as un temps de broderie, donc moi, je pars me balader, puis toi, tu brodes. » Et elles viennent vers moi, ces femmes. Et puis, on échange par geste et elles me montrent elles aussi leur broderie. Et là, je tombe sur des trucs absolument marrants, étonnants. C'est une immense broderie au point de croix qui gueulait de plein de références de couleurs parce qu'on utilise souvent des références de couleurs pour savoir où poser les différents fils avec écrit en belle faute d'orthographe, mais château de Versailles. Et qui sont très contentes de rencontrer une Française pour me montrer qu'elle brode château de Versailles en Chine. Et moi, j'étais sur ma tapisserie de Bayeux. Donc, ma tapisserie, ce petit bout, elles étaient fascinées par mon début de Guillaume le Conquérant sur son drakkar avec ses chevaux en train d'aller vers l'Angleterre. Donc, on a pu échanger. C'est au Guatemala, un échange de broderie qui me permet de t'avoir ramené des braies entièrement brodées d'oiseaux colorés, de fleurs et de dessins géométriques sur un pantalon complètement rayé verticalement et alors la tissée rouge et blanc. On dirait le pantalon d'Astérix et d'Obélix, mais brodé presque sur 50 cm au mollet. Et c'est un très, très bon souvenir au Lacatitlan. C'est une écharpe en Inde, brodée par les hommes, je le rappelle, d'une finesse absolument extraordinaire. Oui, si vous creusez un peu, il y a peut-être à côté de vous, toujours, quelqu'un qui a une broderie à vous montrer.
La broderie, un langage universel finalement. Presque.
Universel, puis avec des points qui sont communs. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, les noms sont différents, le point de nœud sera French knot à l'étranger. Mais finalement, techniquement, quand on a un peu débroussaillé les termes, on se rend compte que oui, les techniques sont tout à fait similaires et que le langage technique, il est universel. Mais ensuite, la création, elle est propre à chaque pays. J'ai échangé par Internet pendant le Covid avec des brodeuses afghanes. C'était formidable, mais c'était avec des points que je connaissais aussi. Donc, c'est ça qui est génial.
Ça donne envie de s'y mettre aussi.
Mais j'espère bien. Alors voilà,
Mais donc, voilà, si on a envie d'approfondir, qu'est-ce qu'on peut trouver notamment dans ton magazine en ligne Au fil des mots?
Alors, le principe d'Au fil des mots broderie, c'est de continuer à faire mon métier, qui est de mettre en lumière, c'est comme le tien, des histoires et des gens. Et bien sûr, les internets ont été, notamment la Covid a beaucoup boosté le phénomène de la broderie auprès des 18-34 ans, semble-t-il. Le monde des fils, de tout le petit matériel bruise du fait que voilà, il y a un vrai engouement. Parce que dans un monde extrêmement mondialisé et un peu toujours pareil, son t-shirt de la marque Truc qu'on peut trouver partout, on va le personnaliser en quelques temps, quelques heures, quelques points. On peut faire une toute petite fleur, on peut faire une petite tranche de pastèque, une petite tranche de citron, une petite lettre au point de tige très facilement. Et hop, ça va devenir quelque chose vraiment à soi. Ça peut être un cadeau extrêmement précieux que de dire, voilà, sur ce t-shirt que tout le monde connaît, moi, j'ai rajouté cette chose, ma propre main. Ce que je mets en lumière dans Au fil des mots, ce sont les gens qui s'emparent comme ça de la broderie et qui inventent à chaque fois des choses. Alors, il y a une jeune femme qui va utiliser des points assez anciens qu'on ne connaît pas trop pour faire des broderies un peu rebelles avec des gros mots. Et c'est Brigitte Fontaine qui va prendre ses petites broches où il y a écrit, pardon, je vais le dire, mais fuck, fuck, fuck partout. Mais en fait, il y a des petites roses autour. Et puis, comme c'est brodé joliment, ça passe. Et puis, ça fait un petit effet broderie. Moi, je trouve ça assez marrant. Il y a tout un mouvement féministe qui s'est aussi emparé de la broderie. Il y a la broderie liée à l'art contemporain. Il y a un livre extraordinaire qui a été impulsé par une dame qui est sur l'île Dieu, Brigitte Gauvignon, qui fait partie d'une île des auteurs, aux éditions La Martinière en son époque. Elle a impulsé un livre qui s'appelle Broderie, au pluriel, que je vous engage à trouver en librairie sur les internets. C'est un livre qui rassemble vraiment tout le sel de la broderie art contemporain moderne, avec notamment le travail d'une jeune femme qui a été un peu curatrice, Audrey Demar, qui fait des choses extrêmement modernes. Alors, on ne va pas forcément chercher là la sophistication des points, mais on va quand même broder des choses, des paysages. J'ai vu des reportages faits par des brodeuses, là encore dans des pays d'Orient, entièrement au point avant et puis au point de tige. Donc moi, voilà, j'essaye avec Au fil des mots broderie, sur Instagram, de faire un magazine qui met ça en éclairage. Et puis avec Joël Conrad, tous les mardis, on fait un live et on répond à des questions, on raconte des techniques aussi. On essaye comme ça de continuer à vulgariser un petit peu la chose.
Plein de beaux outils pour découvrir ou approfondir la broderie. Donc je rappelle le titre de son livre qu'elle a coécrit avec Joël Conrad, « Passez votre CAP broderie, art de la broderie à la main, épreuve pratique et théorique ». Et donc on la retrouve également sur Instagram, @au fil des mots broderie. Merci beaucoup, Laurence Dorlac.
Mais merci beaucoup, Martin.